Radio Cité Genève, Viviane De Witt,
la bouteille à moitié pleine.
Bonjour, aujourd'hui je reçois Serge Dalbousco, conseiller d'État de la République et canton de Genève en charge du département des finances. Bonjour monsieur le conseiller d'État.
Bonjour madame.
Je suis très heureuse de vous recevoir ici à ce micro, vous êtes quelqu'un de très important dans notre République. Vous êtes quelqu'un aussi d'important sur un plan humain parce que vous avez fait un super parcours sans faute. Et je suis très heureuse de vous recevoir aussi à ce titre-là. Alors, on sait que vous êtes né à Genève. Oui. Vous êtes de nationalité suisse.
Bien sûr.
Mais votre nom semble indiquer une ascendance autre.
Oui, il indique très clairement une ascendance transalpine, en l'occurrence la Vénétie. C'est de là d'où est originaire ma famille, mes familles, enfin celle de ma mère et celle de mon père. La province de Trévise, plus particulièrement, à une cinquantaine de kilomètres de Venise, au nord de Venise.
Et quand sont-ils venus en Suisse ou devenus Suisses?
Ils sont venus en Suisse au tout début des années 50, lors de cette première vague d'émigration, en particulier de l'Italie, et de cette région en particulier, qui était une des régions les plus pauvres d'Italie, qui est devenue une des plus riches d'ailleurs entre-temps. Et mes parents faisaient partie de cette vague, effectivement, après la guerre, de beaucoup de jeunes adultes qui ont émigré à ce moment-là, en particulier dans notre région, la région lémanique à Genève. Et voilà.
Alors vous êtes né en 59, je crois, donc des années après?
Oui, quelques années après.
Mais donc vous êtes né suisse?
Non, mes parents se sont naturalisés plus tard.
Plus tard.
Dans les années 70.
Alors, votre enfance, vous savez que je pose une question traditionnelle. Quel petit garçon étiez-vous?
Écoutez, je pense que j'étais un garçon assez sage, finalement.
Déjà un bon élève.
Écoute, je ne sais pas. Moi, j'ai bénéficié, j'utilise à dessein ce terme, d'une éducation dont je me félicite encore aujourd'hui, très respectueuse. Je crois que mes parents nous ont éduqué, ma sœur et moi, un peu par l'exemple. Cet exemple, c'était le travail, c'était le sérieux.
Que faisaient vos parents?
Mes parents étaient des ouvriers. Mon père était jardinier, pépiniériste. Il travaillait dans une entreprise au début qui faisait des jardins. Et ma maman faisait des ménages.
Écoutez, ça c'est formidable parce que justement, ça montre qu'on peut faire un très beau parcours en étant parti finalement d'un milieu assez simple, mais qui a des valeurs.
Oui, les valeurs sont importantes et il faut aussi dire, et je le dis très, très, maintenant, dans la fonction actuelle, je dis encore plus volontiers. Je suis fier quand même de ce canton de Genève qui a donné sa chance finalement à chacun, et cette démocratisation des études, notre système vraiment magnifique que nous avons en Suisse et en particulier à Genève a donné effectivement la chance à chacun, et en particulier à des gens, disons, issus de milieux modestes. Et il est très important que ça puisse continuer. Il faut que cet ascenseur social puisse fonctionner. C'est vital pour notre canton, c'est vital pour notre pays.
Alors, où avez-vous fait vos premières études?
J'ai eu la chance, que mes parents arrivent dans un village qui est celui où j'habite aujourd'hui encore. J'en suis d'ailleurs devenu, j'en étais le maire pendant une dizaine d'années, c'est Bernay. C'était le hasard, hein, finalement. Mon père est arrivé là-bas parce que son contrat de travail travaillait chez un paysan, je crois, dès son arrivée. Et voilà, ils se sont implantés là. À l'époque, vous savez, il y avait des contrats saisonniers pendant un certain nombre d'années. Et puis ensuite, quand ils se sont établis, mes parents sont mariés, ils sont restés toujours dans la même région. Une région dont je suis originaire, je suis né là. Et voilà, donc j'ai fait mes écoles primaires à Bernay. Puis ensuite, le reste des écoles obligatoires à proximité, c'était à Aunay pour le cycle d'orientation en particulier. Voilà.
Vous étiez donc déjà bon élève?
Écoutez, je pense que j'étais plutôt un bon élève, en tout cas quelqu'un assidu. Et
vous aimiez l'école ou c'était par devoir?
Non, j'ai toujours aimé l'école et apprendre. Et c'est vrai que, c'est marrant, j'ai souvent discuté avec des gens de ma génération et des mêmes origines. C'est vrai que le fait de voir ses parents travailler, à certaines époques, ils avaient même deux jobs en quelque sorte, travailler toute une journée, puis ensuite, le soir, à faire à nettoyer des bureaux, par exemple. Beaucoup, beaucoup de gens de cette génération ont fait cette double vie. C'était assez incitatif, en disant, mes parents, ils n'avaient même pas besoin de le dire, mais on avait l'impression que si on ne voulait pas faire comme eux ou devoir faire comme eux, on avait intérêt à bien travailler à l'école. En tout cas, le message qui passait très bien.
Donc, c'était l'école libératrice, en quelque sorte.
L'école et l'instruction et la connaissance est toujours libératrice. C'est même l'élément fondamental de la liberté que la connaissance.
C'est vrai. Si vous voulez bien, on va écouter un peu de musique et puis on reprendra tout à l'heure.
Mais très volontiers.
Ce n'était pas le radeau de la Méduse, ce bateau, qu'on se le dise au fond des ports, dise au fond des ports. Il naviguait en perpénard sur la grand-mare des canards et s'appelait les copains d'abord, les copains d'abord. Ces fluctuates, nec mergitures, c'était pas de la littérature, n'en déplaise aux jeteurs de sorts, aux jeteurs de sorts. Son capitaine et ses matelots n'étaient pas des enfants de salauds, mais des amis franco de port, des copains d'abord. C'était pas des amis de luxe, des petits castors et Pollux, des gens de Sodome et Gomorre, Sodome et Gomorre. C'était pas des amis choisis par Montaigne et la Boétie, sur le ventre ils se tapaient fort, les copains d'abord. C'était pas des anges non plus, l'évangile il l'avait pas lu, mais il s'aimait toute voile dehors, toute voile dehors. Jean-Pierre, Paul et compagnie, c'était leur seule litanie, leur credo, leur confiteor, aux copains d'abord. Au moindre coup de Trafalgar, c'est l'amitié qui prenait le quart, c'est elle qui leur montrait le nord, leur montrait le nord. Et quand ils étaient en détresse, que leurs bras lançaient des SES, on aurait dit des sémaphores, les copains d'abord. Au rendez-vous des bons copains, y avait pas souvent de lapin. Quand l'un d'entre eux manquait à bord, c'est qu'il était mort. Oui, mais jamais, au grand jamais, son trou dans l'eau ne se refermait. 100 ans après qu'aucun de sort, il manquait encore. Des bateaux, j'en ai pris beaucoup, mais le seul qui ait tenu le coup, qui n'est jamais viré de bord, mais viré de bord. Naviguait en père peinard sur la grand-mare des canards et s'appelait les copains d'abord, les copains d'abord. Des bateaux, j'en ai pris beaucoup, mais le seul qui ait tenu le coup, qui n'est jamais viré de bord, mais viré de bord. Naviguait en père peinard sur la grand-mare des canards et s'appelait les copains d'abord, les copains d'abord.
Vous êtes sur Radio Cité Genève 92.2 dans la bouteille à moitié pleine avec le conseiller d'État de la République et canton de Genève en charge du département des finances, M. Serge Dalbousco. Nous venons de voir qu'il était un petit garçon studieux. Et ensuite, vous avez fait des études sensationnelles.
Écoutez, sensationnelles, j'en sais rien. En tout cas, c'était des études fort intéressantes. Il y a une période, notamment, de cette formation qui est juste magique, je pense. Et notamment la période du collège, le gymnase, pour vos auditeurs qui ne sont pas suisses, ou le lycée. Dans le fond, c'est cette période à l'adolescence où l'on acquiert toutes ces connaissances de culture générale. Et je dois dire que c'était une période fantastique.
Vous avez eu des très bons professeurs.
Des très bons professeurs. J'étais donc au collège Calvin à Genève. C'était le hasard de la géographie qui faisait que les élèves de ma commune allaient jusqu'en ville. Et donc on découvrait des autres horizons, des camarades d'autres secteurs, probablement aussi d'autres classes sociales, puisque c'était plutôt les beaux quartiers qui étaient aussi là-bas. Et c'était une mixité, une période extrêmement heureuse. J'ai trouvé que c'était fantastique. Et puis bon, après, j'ai eu le privilège, effectivement, de faire des études en dehors de Genève, à Zurich. Aujourd'hui, il y a beaucoup de, et c'est heureux, de mobilité étudiante. À l'époque, ce n'était pas courant. Je crois me souvenir que dans ma classe, lors de la maturité, eh bien, je devais être le seul à faire des études en dehors du canton.
Du canton. Ouais. Mais vous étiez déjà fort en maths à l'école?
Oui, j'ai toujours été intéressé par la technique et les sciences. Voilà, donc c'était un peu une suite logique. Voilà.
Parce que vous avez fait l'école polytechnique fédérale de Zurich.
Voilà.
Et puis après, vous avez fait Lausanne également, un doctorat à Lausanne.
Et effectivement, donc j'ai eu ce privilège, après ces études à Zurich, de passer quelques années dans le monde académique, la recherche. C'est juste
passionnant. Alors pour les gens qui vous écoutent, il faudrait préciser, oui, si vous voulez bien, ce qu'est la recherche. Parce que beaucoup de gens se disent, qu'est-ce que c'est la recherche? On imagine quelqu'un en train de chercher sans savoir trop quoi.
Ben,
comment ça se passe?
Alors, c'était pas vraiment dans la recherche fondamentale, c'était de la recherche appliquée. C'est-à-dire qu'on cherche à trouver des solutions très concrètes.
Par exemple.
Alors je vais vous dire, donc moi j'ai fait des études d'ingénieur civil. Et donc l'ingénieur civil est celui qui, en tout cas dans ma spécialisation, celui qui veille à ce que les structures, les bâtiments, les ponts soient solides et résistants. Voilà.
Donc une recherche fondamentale.
C'est la fondamentale, mais c'est appliqué surtout.
Oui.
Hein. Et donc j'ai eu la chance, donc j'ai appris à calculer des éléments de structure, etc. Et donc par la suite, j'ai eu l'occasion, donc à l'EPFL, de mener une recherche très particulière, en l'occurrence sur des poteaux, hein, des poteaux en béton. Vous voyez, c'est quelque chose de très concret.
Sur leur solidité,
sur leur capacité
de portance,
de déformation, etc. etc. Donc, et en fait, ma méthode, enfin, j'ai développé une méthode au cours de ces quelques années, pendant lesquelles j'ai fait effectivement une thèse de doctorat. Cette méthode a été ensuite intégrée dans les normes suisses. Et dans le fond, aujourd'hui encore, on calcule les poteaux dans les bâtiments selon les bases d'une méthode que j'avais moi-même développée. Donc c'est quelque chose de très concret.
Alors, on imagine que les grands entrepreneurs internationaux font appel à des gens comme vous. Je pense par exemple à Bouygues lorsque dans les années 60, ça c'était bien avant, vous étiez à peine né, mais quand ils ont imaginé cette utilisation du béton pour le stade près de Paris, oui, c'était quand même assez incroyable, c'était tellement novateur à l'époque.
Absolument, on pense que dans la construction tout a été déjà inventé, mais c'est des domaines où il y a beaucoup de nouveautés, en particulier ces dernières années. On utilise les matériaux, on utilise des nouveaux matériaux. Le béton lui-même n'a plus grand-chose à voir avec ce qu'il était il y a quelques décennies. Aujourd'hui, c'est des produits de très haute technologie. On y met pas mal d'adjuvants ou de composants chimiques pour en améliorer les performances. Il y a vraiment des avancées très, très grandes dans ce domaine. Ouais.
Les performances étant l'importance essentiellement?
Les performances étant effectivement
Ou la vétusté, ou qu'est-ce que
alors,
c'est?
Alors, il y a deux éléments. Il y a effectivement les caractéristiques physiques, comme la résistance, par exemple, ou la capacité à se déformer, qui est très important, par exemple, lorsqu'on essaie de construire faire des constructions qui résistent aux tremblements de terre. Et puis, il y a un autre domaine, et là, c'est un peu en lien avec aussi mon activité actuelle, c'est lorsqu'on fait des constructions de toutes sortes, il faut que celles-ci soient durables. Il faut qu'elles vieillissent bien, sinon ça coûte beaucoup, beaucoup d'argent à entretenir. Alors je suis en charge actuellement des bâtiments, en plus des finances, des bâtiments de l'État de Genève. C'est des sommes considérables que nous devons affecter à la rénovation, par exemple. Donc on a tout intérêt à construire de manière solide, durable, économique, sur le long terme.
Ça, certainement, oui. Mais alors ça pose le problème aussi des habitations privées qui, souvent, pour des raisons de nécessité, ne sont pas forcément très durables.
Oui, c'est vrai. Alors bon, il y a souvent des questions financières, de budget. Mais je pense que dans ce domaine-là, la construction, les infrastructures, plus que dans d'autres, il faut probablement le construire bon marché revient à construire cher sur le long terme. Donc il faut vraiment examiner le coût sur toute une vie, enfin toute une durée de vie.
Et ça fait partie donc des préoccupations de ce chercheur que vous étiez. Alors vous avez monté votre propre entreprise après, donc.
Oui, effectivement. Après, pendant à peu près 20 à 25 ans, j'ai réalisé un certain nombre d'ouvrages et j'avais un bureau d'études où j'étais associé dans un bureau d'études, notamment dans une deuxième phase. Et c'était réaliser des projets concrets, des logements, des installations, des infrastructures, des... Qu'est-ce qu'on a fait ? Plein de choses.
C'est un bureau d'études ? Comment ça s'appelle ? C'est un bureau d'études.
C'est un bureau d'études.
Ce sont les architectes qui font appel à vous ou ce sont...
Nous travaillons notamment dans le domaine des bâtiments avec des architectes, effectivement. C'est une collaboration très intense. Mais nous travaillons aussi, par exemple, dans le domaine des ponts, des routes, des lignes de chemin de fer, par exemple, ce genre de choses. En direct, nous sommes ce qu'on appelle un mandataire principal. On travaille avec les collectivités publiques, avec des industries, avec le secteur privé. C'est extrêmement éclectique comme activité.
Et ça a été 20 ans de votre vie.
C'était ça, exactement.
On va écouter un peu de musique à nouveau, si vous voulez bien.
Thank you.
Radio Cité Genève, Viviane De Witt.
La bouteille à moitié pleine.
Avec Serge Dalbousco, conseiller d'État de la République et canton de Genève en charge du département des finances, nous avons vu qu'il était successivement un bon élève, un brillant étudiant, qu'il a entamé ensuite une carrière d'ingénieur. Nous allons maintenant aborder une partie de sa vie très importante, une partie de sa carrière essentielle, puisqu'il est devenu un homme politique. Alors comment est-ce que cette idée vous a traversé l'esprit, vous qui étiez un ingénieur brillant ?
Écoutez, même si je ne crois pas au hasard, je pense que le hasard a quand même joué un rôle. Dans le fond, mon entrée dans la politique s'est faite par la politique communale, la politique de proximité. Après donc un parcours et une absence de Genève d'une dizaine d'années, à Zurich puis à Lausanne, c'était à la fin des années 80, début des années 90. J'ai eu la chance, à l'époque c'était encore plus difficile que maintenant de trouver un logement. On a eu la chance de pouvoir venir avec ma famille à retourner d'ailleurs dans mon village d'origine, la Bernay. Et puis, et surtout que c'était quelques semaines avant les élections municipales, comme maintenant, comme aujourd'hui, puisqu'on a les élections municipales dans quelques semaines. Et puis, des amis de tous les partis représentés sont venus me voir, me dire « tu veux pas te présenter, etc. etc. » Et je me suis lancé. Voilà. C'était en tant que conseiller municipal.
Alors ça, c'est pas vraiment de la politique, c'est de la gestion municipale.
Oui, mais ça vous met le pied à l'étrier, véritablement. Donc j'ai fait quelques années au conseil municipal et ensuite, une dizaine d'années plus tard, il y a eu la possibilité de me présenter à la mairie de cette commune où j'ai été élu.
Je crois que vous avez même été élu 6 fois. Vous avez été 6 fois maire.
Vous savez, on devient maire à tour de rôle chaque année. Et effectivement, j'ai fait 2 mandats et demi. Et j'ai été pendant 6 années, pendant 10 ans. Sur les 10 ans, j'étais pendant 6 ans maire de la commune.
Combien d'habitants, Bernay, pour les auditeurs qui ne sont pas suisses ?
C'est une commune qui est toute proche des 10 000 habitants.
Oui, quand même, c'est déjà une belle ville.
Il n'y a pas de caractère urbain, c'est vraiment, on se trouve à...
Campagne.
À la périphérie de Genève, environ à 6 km du centre. Donc il y a à la fois les contingences de la ville, de l'urbanité, les problèmes qui sont liés à cela, enfin les problèmes, oui. Et puis aussi, on est quand même dans un monde, disons, un peu rural. Mais cette commune est appelée à se développer au cours des prochaines années, des prochaines décennies. Et voilà, donc c'était extrêmement intéressant de participer à cette mutation, à ces changements. C'était véritablement passionnant que ces 10 années à la mairie.
Et voilà. Des questions de transport, des questions de logement.
Des questions de logement. Il y a des grands projets de logement, d'urbanisation que j'ai pu mener, enfin, en tout cas mener les études. Et voilà. Et puis ensuite, à un moment, le hasard fait qu'à un moment donné, je me suis trouvé être appelé à présider l'Association des communes genevoises. Donc c'est cet organisme qui regroupe toutes les communes. Là aussi, c'est un concours de circonstances qui m'a amené à être candidat. Donc j'ai fait ce mandat. Et là, ça m'a donné l'occasion de traiter et d'avoir à traiter des dossiers qui concernaient toutes les communes. Donc c'était une dimension plus cantonale.
C'est vrai, mais ça, c'est très important parce que j'imagine la suite du parcours. Si vous ne connaissiez pas les approches des différentes communes autour de Genève, au fond, il vous manquera quelque chose de très important parce que il y a quand même une dualité Genève et campagne autour.
C'est tout à fait exact. C'est vrai que ce mandat comme président des communes m'a donné accès finalement aux grands dossiers cantonaux. Et ça a probablement été un élément, disons, qui a contribué à la suite de mon activité politique, bien entendu. Ouais.
Alors, vous vous êtes trouvé à l'époque opposé à Genève de temps en temps ?
Oui, c'est vrai que nous étions à l'époque... mais ça n'a pas changé aujourd'hui. Hein, il y a toujours cet antagonisme qui est un peu embêtant quand même, que finalement, la communauté genevoise est un ensemble... On a un espace de vie. On a d'ailleurs aujourd'hui des grandes réflexions au Conseil d'État avec, finalement, il faut qu'on ait comme préoccupation principale l'intérêt du citoyen. Pour le citoyen, ça importe peu de savoir qui, si c'est le canton ou la commune, réalise la prestation. Ce qu'il veut, c'est la prestation, c'est qu'elle existe et qu'elle soit faite de qualité, avec au moindre coût, etc. Donc, on est en pleine réflexion à ce sujet. À l'époque, lorsque j'étais à la mairie, effectivement, mais c'est un peu par tradition et presque par définition qu'il y a un peu ces tensions-là. Et mon objectif a toujours été de trouver l'intérêt général dans tout ça et pas la querelle politicienne.
On va écouter à nouveau un peu de musique, si vous le voulez bien.
Oui, volontiers.
Radio Cité Genève. Viviane De Witte.
La bouteille à moitié pleine.
Vous êtes sur Radio Cité Genève 92.2 dans La bouteille à moitié pleine avec Serge Dalbousco, conseiller d'État de la République et canton de Genève en charge du département des finances. Nous sommes maintenant en train d'aborder une partie qui est quand même passionnante parce que ça n'est plus la partie où vous étiez maire ou même président de l'Association des communes genevoises, mais c'est maintenant l'élection au Grand Conseil. Alors là, ça devient très sérieux.
Oui, c'est en 2009, ça devient sérieux, enfin, c'est la politique cantonale.
Ça devient de la vraie politique par opposition à de la gestion municipale.
Alors, je ne suis pas sûr que ça soit vraiment la vraie politique. Moi, j'ai toujours une vision politique qui était axée sur les réalisations et puis sur les actions concrètes pour les gens. le débat parlementaire, celui qui auquel j'ai accédé en devenant député en 2009, très franchement, ce n'est pas la version que je préfère, disons, de l'action politique. C'est beaucoup de discussions, souvent stériles, de combats politiques, à mon avis.
C'est beaucoup de solo aussi dans l'expression quand on regarde les mains bleues.
Oui, c'est un peu ça.
C'est un peu...
Pour voilà, mais je veux évidemment pas. Le Parlement représente évidemment le cœur central d'un État démocratique. C'est législatif, le législateur, c'est la représentation du peuple, bien entendu. Mais voilà, par intérêt personnel, je suis plutôt un homme d'exécutif. Voilà, j'étais à la mairie, mais je suis au gouvernement cantonal. C'est fort intéressant que de participer à une vie parlementaire, mais c'est pas, j'ai pas d'affinité particulière. En tout cas, je préfère d'autres volets de l'action politique.
Je comprends très bien. Alors, quels ont été les sujets sur lesquels vous avez participé ? Est-ce qu'au moment de la réflexion sur la Constitution, vous avez participé vous-même ?
Alors, bon, toute la réflexion, non, pas moi-même directement, c'était l'Assemblée constituante qui était en charge de ce dossier, mais évidemment... On en suivait l'évolution de ces dossiers. Alors là, c'était plutôt en ma qualité de magistrat communal que je suivais la chose, ou président de l'Association des communes genevoises, puisque dans la constituante et dans la nouvelle constitution, il y avait des grandes discussions sur le futur statut des communes, sur l'organisation territoriale. Personnellement, je regrette que la constitution et la constituante n'aient pas... eu en quelque sorte de courage de procéder à des grandes réformes.
On a un peu l'impression d'une montagne qui accouche de la souris parce qu'on en a beaucoup parlé,
oui,
beaucoup motivé les gens et puis finalement...
Il y avait des idées très ambitieuses, notamment sur la réorganisation du territoire, sur les regroupements de communes, sur ce genre de choses. Il y a des éléments intéressants qui en sont résultés, mais dans le fond, la constituante a laissé le choix... de ce travail, laisser ce travail au Parlement et surtout au gouvernement actuellement. Et on est engagé dans un certain nombre de réformes que l'on va proposer. La chose revient un peu par la bande, si vous me permettez l'expression.
Oui.
Mais c'est un peu ça.
Alors, les sujets, enfin, je dirais, dont vous vous êtes occupé personnellement pendant depuis que vous êtes élu au Grand Conseil, qu'est-ce que c'était essentiellement?
Bon, j'étais surtout impliqué dans les questions d'aménagement. Vous savez, on est surtout spécialisé selon les commissions dans lesquelles on est nommé. L'aménagement, la question du logement aussi. Et puis, j'avais participé aussi activement à une loi qui a ensuite été refusée par référendum, qui visait à réformer la gouvernance des entreprises publiques, des services industriels, de l'hospice général, ce genre de choses. Donc c'était une loi très ambitieuse qui était nécessaire, mais le peuple a refusé en référendum. Donc,
mais est-ce qu'elle était bien comprise dans sa...
Elle était, je pense qu'elle était bien comprise... Elle a échoué parce que les partis politiques ou certains ont vu dans cette nouvelle loi une limitation, une diminution de leurs prérogatives et de leur influence. Voilà, donc c'est l'interprétation que je fais. Je pense que c'était regrettable, mais qu'il s'agira peut-être de revenir prochainement avec des nouvelles propositions.
Il faut beaucoup de patience, au fond, pour être politicien.
Il faut beaucoup de patience.
100 fois sur le métier, etc.
Il faut remettre 100 fois sur le métier. Et puis, il faut savoir aussi que le plus court chemin est rarement la ligne droite. Ce sont souvent des chemins tortueux, sinueux. Parfois, il faut revenir en arrière. Il faut prendre la direction opposée pour ensuite atteindre le but. Et donc, ça prend beaucoup de temps. C'est notre système démocratique qui veut cela en Suisse.
Bon, ceci dit, il a un immense avantage quand même, c'est de faire participer la population qui se sent un peu moins dépossédée des grandes décisions.
C'est exact, c'est exact. Mmh. Et voilà, je pense que notre système démocratique est...
Il est très admiré à l'étranger.
Il est très admiré et il est efficace. Alors, disons, pour ceux qui sont vraiment impatients, c'est parfois un peu frustrant, il faut le reconnaître, mais c'est comme ça, c'est la règle. Il faut s'y plier.
Et puis un beau jour, le Grand Conseil et le Conseil d'État, surtout. Ça, c'était... voilà, j'ai regardé, vous aviez une minute pour convaincre. C'était une émission de Pascal Descaillés, je crois. C'était... Enfin, je ne sais plus, vous étiez interviewé très peu de temps. Et vous aviez ce grand sourire que vous arborez aujourd'hui. Malheureusement, nous sommes en radio. Et ce visage extrêmement amical et pénétré de l'envie de bien faire pour vos concitoyens. Et je pense que ça s'est senti.
Écoutez, je suis heureux de vous entendre dire cela parce que, dans le fond, ça transmet la réalité. Quand j'ai décidé de me lancer dans cette aventure, je l'ai fait parce que j'étais extrêmement motivé, extrêmement convaincu que c'était mon choix et que je devais le faire pour un certain nombre de raisons. Et effectivement, ce qu'on m'a demandé en une minute d'essayer de dire pourquoi j'étais candidat, voilà, j'ai juste dit pourquoi je l'étais, pourquoi j'étais...
Mais vous avez transmis cette conviction et cette chaleur.
Ben écoutez,
c'est important en une minute.
Oui, c'est un exercice un peu difficile, mais je pense qu'il était empreint de la sincérité. C'est pour ça que ça a marché. Et ce que je peux vous dire, chère madame, c'est que cette volonté, cette envie, elle n'a en tout cas pas disparu depuis maintenant une année et demie. Cette fonction est juste passionnante. Elle est très prenante. Les problématiques qu'il y a à résoudre sont considérables, c'est clair. On a même l'impression qu'il s'en ajoute de nouvelles chaque jour. Mais ça n'entame en rien, ça n'entame vraiment en rien cette volonté. Au contraire, bien au contraire, dirais-je.
On va écouter un peu de musique et on va y revenir tout à l'heure.
Je chante dans le fort de Vancouver.
Vous êtes sur Radio Cité Genève, 92.2, dans la bouteille à moitié pleine, avec Serge Dalbousco, conseiller d'État de la République et canton de Genève, en charge du département des finances. Alors, monsieur le conseiller d'État, nous avons quantité de questions à vous poser. Est-ce que vous avez lu ce récent sondage, enfin cette récente étude, qui nous classe, nous, Genève, à la 13e position parmi les villes qui attirent les gens fortunés de la planète dont nous avons tant besoin pour nos impôts? Est-ce que vous avez lu ça? J'étais un peu triste parce que j'ai vu que Monaco était à la première place. Ça ne m'a pas attristée parce que j'aime bien Monaco, on est originaire. Mais j'ai vu que Genève était à la 13e place et Zurich à la 10e. Pourquoi?
Bon, je pense que Genève, et c'est un excellent classement, hein, que de figurer dans cette position-là avec une ville comme Zurich aussi. Je pense que la Suisse en général est attractive, elle reste attractive, elle doit le rester. J'ai quelques craintes à ce propos, et dans mon action et dans l'action du Conseil d'État, c'est précisément sur cela que l'on doit travailler. Finalement, et je le disais d'ailleurs dans la campagne à laquelle on fait allusion tout à l'heure, ce que j'aimerais faire pour ce canton, pour cette ville que j'aime tant et que nous aimons tant, finalement, c'est qu'elle garde sa prospérité, qu'elle garde son dynamisme, son ouverture, son équilibre, et qu'elle puisse accueillir ici, effectivement, des personnes de tous horizons, et en particulier des personnes qui ont une certaine ressource. Parce qu'aujourd'hui, pour faire marcher notre administration, il faut beaucoup d'argent, il faut beaucoup d'argent. Et on est dans une situation financière qui n'est pas si réjouissante que ça. Donc l'attractivité de cette ville et de ce canton est très importante.
Mais surtout, on a vu lors du débat qui a été finalement tranché et qui a permis de garder les forfaits, on imagine quand même... je pense qu'on n'explique pas assez aux gens qui ressentent ça comme quelque chose d'anormal ou d'injuste, que les études qu'ont fait ces personnes n'ont rien coûté à l'État genevois, qu'ils arrivent avec de l'argent qui a été gagné ailleurs. Ouais. Donc, quelque part, ils arrivent avec une sorte de trésor dont va profiter, leur nouvelle patrie ou leur ville d'adoption. Ensuite, ils vont dépenser cet argent. Mmh. Dépenser cet argent, ça irrigue quand même beaucoup de choses. Ce sont des gens qui dépensent, ce sont des gens qui aiment bien un certain style de vie. Et je pense que les chasser ou leur faire cette espèce de racisme anti-riche que vous avez vous-même d'ailleurs stigmatisé, c'est pas très malin parce qu'ils s'en vont très vite, ces gens-là. Parce qu'il faut comprendre une chose, c'est que lorsqu'on a quitté sa vraie patrie... Ouais. En quitter une deuxième un peu hostile, ça n'est pas compliqué.
Mais vous avez parfaitement raison, mais je suis très heureux de constater que les Genevoises et les Genevois ont été très sensibles aux arguments. On a évidemment fait beaucoup d'explications et le résultat a été à la hauteur des espérances, même au-delà. Donc les gens étaient vraiment très conscients et le vote a été extrêmement clair. Ce dont je me félicite, évidemment. Je pense que la question de l'explication, de l'aspect didactique que nous devons mettre en œuvre en tant que membre de gouvernement est très important. C'est ce que j'essaye de faire, et en particulier avec une matière, la fiscalité, l'argent, tout ça, qui n'est pas toujours facile. Il faut juste expliquer quelles sont les réalités. Moi, je pense que les personnes, nos auditeurs, tout le monde, les citoyens comprennent tout à fait. Il faut juste... si vous me pardonnez cette expression que j'utilisais aussi pendant la campagne, ne pas leur raconter des salades.
Exactement.
Juste dire quels sont les faits, quelle est la réalité. Ça vaut pour les impôts, ça vaut pour les réformes qu'on va devoir faire, ça vaut pour les économies qu'il faut maintenant mettre en œuvre, ça vaut pour la réforme, notamment des conditions pour notre fonction publique. Vous savez que notre fonction publique, les fonctionnaires ont... On se sont exprimés, ils ont fait des actions sociales en estimant devoir payer un tribut finalement à cette politique et à ces économies que l'on essaie de faire. Moi, j'essaie juste d'expliquer quelle est la réalité. Et ensuite, le peuple, il tranche. Oui. Je pense que c'est la bonne méthode.
Puisque vous parlez des fonctionnaires, on a parlé d'un 14e mois éventuel pour des fonctionnaires à partir de la classe 28. Qu'est-ce que c'est que cette classe 28 ?
Écoutez, le système salarial de l'administration est basé en 32 classes. Il y a 32 classes de salaire. Et puis, selon la profession que vous exercez, vous êtes classifié, classé dans une de ces classes. Alors, cette, ce à quoi vous faites allusion, c'est les suites compliquées et néfastes, à mon avis, d'une décision que le Grand Conseil a prise récemment d'enlever à nos hauts cadres, donc, aux collaborateurs extrêmement précieux, puisque ce sont eux qui motivent notamment tout le monde et qui sont à la mise en œuvre de ces réformes, eh bien, on leur a enlevé 8% de leur salaire il y a quelques semaines. Le Parlement a décidé ça, c'est extrêmement négatif, c'est un signal de défiance qui a été donné à leur égard. Et nous, ce qu'on aimerait bien, et pour qu'une administration fonctionne, on aimerait bien que ce soit des gens talentueux qui puissent venir aussi motivés.
Choix, oui, puis qui ont le choix entre des postes dans le privé
tout
et dans
fait.
L'administration. Donc, s'ils sont moins gâtés dans l'administration, ils vont choisir le privé.
Et je pense que c'est une très mauvaise économie. Enfin, ça n'en est pas une, parce que la motivation va de pair quand même. Et j'espère que voilà qu'on pourra peut-être atténuer les effets négatifs de cette décision qui est à mon sens vraiment néfaste.
Quel est votre votre cheval de bataille principal?
Mon cheval de bataille principal, c'est de maintenir la prospérité de ce canton. Et pour cela, il faut que l'on arrive à garder dans ce canton les entreprises et les personnes qui payent beaucoup d'impôts, parce que cet argent, il nous sert à redistribuer. Je vous évoquais tout à l'heure en début d'entretien l'importance que je place, notamment sur la formation. Tout ça coûte de l'argent, plus de 2 milliards, l'instruction publique à Genève. Et il faut garder cette substance et pour pouvoir financer nos prestations. C'est ça l'essentiel. Et il faut qu'on ait une adéquation entre ce qu'on dépense et ce qu'on gagne. Et puis, il faut aussi prendre garde à ne pas reporter les problèmes actuels sur les générations futures. La question de la dette, aujourd'hui, est véritablement un grand problème. Les intérêts sont bas, mais ils pourraient monter. Et je trouve que c'est de notre responsabilité, de la responsabilité de notre génération, de ne pas léguer aux générations futures un fardeau trop lourd à porter.
Monsieur le conseiller d'État, on va arriver à la fin, malheureusement, de cette émission, toujours trop courte.
C'est vrai, le temps passe vite.
C'est vrai. Je sais que vous avez 4 enfants.
Oui.
Donc, c'est essentiel, effectivement, de penser à l'avenir de vos enfants, des enfants de vos concitoyens. Si vous aviez un seul vœu à faire, en dehors de ce vœu général de prospérité de notre département, ce serait lequel ?
Ça serait que chacun puisse continuer à trouver sa place dans ce canton. Quand on pense à la génération future, moi, il n'y a rien qui me désole plus que de voir des jeunes qui se sont formés, qui ont vécu toute leur enfance ici dans ce canton et qui ne trouvent pas à s'y loger. Et ça, c'est vraiment extrêmement regrettable. Et là, il faut vraiment, vraiment arriver à garder nos jeunes dans ce canton et à ce qu'ils y trouvent leur place. Un travail, une vie décente pour eux et pour leur famille.
Merci, monsieur le conseiller d'État. Merci, Serge Dalbousco, pour cette émission. Merci d'avoir parlé avec votre cœur et la sincérité qu'on vous connaît. Et puis, j'espère qu'on aura l'occasion de vous réinviter, que vous nous ferez le plaisir de revenir sur les ondes de Radio Cité Genève. Et à bientôt.
À bientôt. Merci beaucoup, madame.
Et on remercie aussi Jackie Elzesser et Alexandre Jean-Renaud qui nous aident à monter cette émission. À bientôt.
Radio Cité Genève. Viviane De Witt, la bouteille à moitié pleine.
La bouteille à moitié pleine. We'll be right back.
chicks. You're damn right. Who is the man that would risk his neck for his brother, man? Can you dig it? Who's the cat that walk about when there's danger all about? Right on. They say this cat Shaft is a bad mother. I'm talking about Shaft. He's a complicated man, but no one understands him but his woman.